Escalade. La Méridienne.
Tout de suite, on a quatre invités avec nous qu'on retrouve en visio. Il y a Nadine Biard et Laure Darcourt qui sont infirmières. Madame Laurence Noni qui est patiente de ces infirmières. Et le docteur Cécile de Butet-Lacharme. Les deux infirmières qu'on a avec nous, elles font partie de l'association Azalée. Bonjour à toutes les quatre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous présenter l'association Azalée et nous dire en quoi elle consiste, cette association ?
Oui, Azalée a été créée en 2004. C'est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée au départ par un médecin généraliste pour avoir auprès de lui une infirmière. Et le principe, c'est de travailler justement en collaboration entre médecins généralistes, infirmières et patients. Voilà, elle a pris depuis de l'ampleur. Elle est née dans les Deux-Sèvres et maintenant elle s'est répandue au niveau national. Et aujourd'hui, on compte 2080 infirmiers, 9155 médecins généralistes dans 2963 implantations en France.
Ça fait beaucoup de monde. Et dans le Beaujolais, plus localement, je crois qu'il y a une douzaine d'infirmières, c'est ça, qui font partie de cette association ?
Effectivement, oui.
Oui, c'est ça, tout à fait. On est répartis dans la région, on s'appelle Beaujolais-Saône. Donc ça va plus au nord, c'est Beaujeu, secteur Beaujeu, et plus au sud jusqu'à Ans, justement. Mmh. Et après, on se répartit un petit peu le long de la Saône, mais surtout dans le département du Rhône, en fait.
Et alors concrètement, c'est quoi le quotidien d'une infirmière de cette association ? C'est quoi ses rôles et ses missions ?
Donc, comme disait Laure, donc on travaille en collaboration avec des médecins traitants,
ouais,
accompagner les patients sur un volet plutôt maladie chronique, en fait.
D'accord.
Donc, au départ, c'était parti sur un protocole en lien avec le diabète, mais ça s'est étendu depuis aux maladies cardiovasculaires, aux addictions, notamment tabac, mais voilà, ça peut être d'autres addictions aussi. Surpoids, obésité, détection des troubles de la mémoire. En gros, c'est ça.
La santé mentale aussi. Et tous ces protocoles sont basés sur l'éducation thérapeutique. En fait, l'idée, c'est de prendre le temps d'écouter le patient,
ouais,
de savoir où il en est, là où il veut aller. Et tout ça en collaboration avec le médecin. Donc, c'est vraiment une prise en charge patient infirmier dans le but de rendre le patient acteur de sa santé.
Et donc, l'idée, c'est de... Les médecins n'ont pas forcément beaucoup de temps parce que j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de patients et de rendez-vous dans la journée. Donc, ils n'ont pas forcément le temps d'avoir toutes ces rencontres. Donc, l'idée, c'est d'être que les infirmières, elles prennent ce temps-là de rencontrer les patients, de discuter avec eux et de faire le relais avec le médecin directement, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration et ça se conjugue vraiment en fonction de la personnalité et des souhaits de l'infirmière et de la personnalité et des souhaits du médecin. Donc, ça, on a vraiment une grande liberté dans la manière de travailler. Ça nous permet vraiment de nous centrer autour du patient et en fonction de nos plannings, de nos souhaits, de la dynamique locale. Nous, on est dans une maison de santé à Beaujeu où on est 21 professionnels de santé, donc 4 médecins, mais finalement, on est très riche de diverses professions et ça nous donne une dynamique très forte pour faire beaucoup de projets pluriprofessionnels auxquels sont souvent associés Nadine.
D'accord. Voilà. Et alors vous, Laurence, qui êtes patiente, c'est quoi le lien que vous avez avec ces infirmières de l'association Azalée ?
Ben, à la base, ma généraliste m'en a parlé puisque je souhaitais arrêter de fumer. Mais il y avait plein de choses, sédentarité, surpoids, etc. J'ai rencontré Nadine. Première approche. J'ai re-rencontré Nadine. À la sortie aujourd'hui, il y a une telle écoute. Elles ont un savoir, une psychologie qui est géniale. Mmh. En gros, si vous voulez, 8 mois après, je ne fume plus, j'ai perdu 8 kilos et je fais 15 kilomètres par jour à pied, chose que je ne faisais pas, je ne marchais plus.
Bravo.
Voilà. Non, mais voilà, mais si vous voulez, c'est vraiment, c'est génial. J'ai pas, ouais, d'autres termes. C'est en fait toutes ces addictions, cette sédentarité, tout ça, c'est tout dans la tête, j'ai envie de dire. Mmh. Et elles savent détecter. Et voilà. Et si ma généraliste m'avait pas adressé, ben on n'en serait pas là, quoi. Voilà. Il y a un suivi vraiment génial.
Bon. Oui, alors, pour préciser, c'est vraiment le patient qui est l'acteur, en fait. Donc, nous, on est là pour voir avec lui quelles sont ses ressources, quelles sont ses forces. Et c'est aussi ça qu'on va essayer de mettre en valeur pour que le patient se remette en marche. Donc, en fait, c'est vraiment un travail. Et tout ça aussi en collaboration avec le médecin. Donc là, en l'occurrence, le docteur Ramage qui m'avait envoyé Laurence comme patiente, régulièrement aussi, je vais faire un point avec elle pour aussi qu'on parle du suivi qui se passe entre nous, en fait. Donc, c'est vrai que c'est aussi ça qui est important, c'est que ces échanges entre les trois, comme disait Laure, entre l'entrénome, c'est ça qui permet que la dynamique évolue, en fait, que ça ne reste pas statique.
Être acteur de son rétablissement ou de ses soins.
De sa santé, de sa qualité de vie, en fait.
Ouais.
Et c'est important de préciser que la prise en charge avec Casalet, elle n'est pas que individuelle, centrée sur un patient, mais elle contribue aussi à faire un travail de santé publique en proposant des services en fonction des besoins qui sont au niveau de la population locale et qui s'adressent à nos patients. Pour exemple, on a un groupe de travail sur l'obésité pédiatrique et on travaille en collaboration avec le réseau REPOP. On a créé un groupe de travail sur la santé mentale des adolescents et on est en train de faire un travail avec le collège de Beaujeu. Et puis, on a tout un travail déjà depuis plusieurs années qui avance beaucoup sur la question des violences faites aux femmes avec la mise en place d'un groupe de parole, tout un réseau d'accompagnement des femmes victimes. Et les infirmières Azalée font complètement partie des personnes qui sont susceptibles de dépister les problématiques, de les accompagner en complément de la prise en charge médicale qui ne peut pas du tout suffire à elle toute seule.
Et j'ai cru comprendre que l'association elle était en difficulté dernièrement. Et alors c'est un peu compliqué, c'est un sujet que je connais pas bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe pour l'association Azalée?
Tu compléteras Nadine, mais Azalée est financée entièrement par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour les où des conventions sont signées régulièrement. Et la dernière n'a pas pu être signée en 2022. Il y avait des désaccords entre la CNAM et Azalée. Ça rentrait pas dans les mission d'Azalée. Du coup, depuis, la communication n'est pas toujours simple. Et ce qu'on aimerait, c'est que les négociations reprennent, parce qu'il y a eu un long, long silence, et qu'elles aboutissent pour que Azalée puisse être financée à hauteur du nombre d'infirmières embauchées actuellement, parce que ce n'est pas le cas. Et que la CNAM puisse verser également tous les mois à Azalée la somme en temps et en heure, puisque ce n'est pas le cas non plus depuis quelques mois. Les médecins en pâtissent puisqu'ils n'ont pas pu recevoir leurs indemnités ces derniers mois, ça fait plus d'un an.
Ouais.
Et que nous, infirmières, n'en a pas pu recevoir nos salaires comme habituellement en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment...
C'est problématique.
Compliqué, ouais.
Au quotidien. Et de ce que j'ai compris, l'association, c'est une association qui a une vingtaine d'années déjà, qui a été reconnue petit à petit au fur et à mesure de son développement d'intérêt public et du coup prise en charge par la CNAM, c'est ça? Et puis, récemment, de ce que vous m'expliquez, la CNAM a voulu prendre les commandes, en fait, et vous donner des missions, et c'est là que ça a bloqué.
Nous sommes les infirmiers, donc on parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de notre métier. Après, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un bras de fer entre notre direction et la CNAM. Donc, on n'a pas forcément tous les enjeux précisément. Simplement, ce que la direction nous dit, c'est qu'elle veut reprendre les négociations et que pour l'instant, elles sont en stand-by. Et pour qu'il y ait un accord sur justement les missions qui sont demandées par la CNAM et puis ce que notre direction veut. Voilà, il faut que ça reprenne, enfin, il faut que les négociations reprennent afin que, ben voilà, qu'on puisse mener notre travail à bien, mais dans des conditions qui soient acceptables, c'est-à-dire qu'on soit payé en temps et en heure au niveau de nos salaires, et que il y a aussi une problématique de loyer qui se pose, que la CNAM n'est plus forcément d'accord pour payer certains loyers des infirmiers azalés. Donc ça, c'est aussi un sujet de désaccord. Donc là, voilà, c'est des choses, bon, il faut que ça se discute et que ça se négocie pour qu'il y ait un accord qui soit trouvé, en fait.
Et qu'est-ce que vous mettez en place, du coup, pour essayer de faire bouger cette situation? Déjà, vous contactez les médias, visiblement. vous contactez d'autres personnes pour essayer de trouver des leviers pour faire évoluer ce qui se passe?
Oui, effectivement, nos députés, nos maires, pour expliquer la situation, pour faire connaître Azalée, pour qui a fait ses preuves effectivement depuis 20 ans, et tout ça, c'est parti du terrain, de la demande du patient, et ça, c'est une grande ligne de conduite dans Azalée, et c'est pour ça que ça marche. Voilà, et c'est pour ça aussi que ça permet de faire des économies à la sécurité sociale, puisque les patients qui sont suivis dans un cabinet où il y a un infirmier azalé ont majoritairement moins de traitements, moins de prescriptions, moins d'hospitalisations. Voilà, et c'est surtout pour eux qu'on est là, et c'est important que ça perdure. La santé primaire est trop importante.
Ouais. Ouais.
Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en tout cas, qu'on puisse expliquer justement ce qu'on fait, de montrer que ça a de la valeur. Et c'est pour ça qu'on a contacté donc les journalistes et les élus. Et on compte bien que les élus puissent porter notre parole, en fait, à l'Assemblée nationale ou alors justement auprès des dirigeants de la CNAM. Et pour ça, en fait, on veut juste expliquer ce qu'on fait.
Ouais.
Donc, localement, on a donc pris contact avec le député de la 9e circonscription, donc Alexandre Portier.
Ouais.
Qui donc veut nous rencontrer pour qu'on puisse lui parler plus précisément de notre travail de collaboration médecin-infirmier. Donc, on compte bien porter notre parole auprès de ces gens-là.
Bon, on espère que votre message sera entendu. En attendant, si j'ai dans mon entourage ou si des auditeurs sont atteints de diabète, de problèmes cardiovasculaires, je crois qu'il y a la BPCO aussi qui est concernée par l'association Azalée. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous? Comment est-ce que ça se passe? C'est le médecin qui nous dirige vers vous ou ça marche comment?
Alors, en général, c'est le médecin traitant qui… parce que tous les médecins traitants ne travaillent pas avec une infirmière azalée. Et il est impératif que le médecin traitant ait signé une convention avec Azalée pour pouvoir l'orienter vers son infirmière de référence. Donc, en général, c'est nous, les médecins, qui proposons aux patients un accompagnement. Et puis ensuite, on organise les choses. Et pour revenir sur ce que vous disiez avant, nous, ce qui nous semble très important à défendre en plus du financement, c'est qu'on veut garder une certaine liberté qui fait vraiment partie des valeurs d'Azalée dans la manière d'accompagner les patients, parce que les populations ne sont pas les mêmes, les pathologies ne sont pas les mêmes. Et que cette liberté, elle nous permet vraiment de nous centrer sur le patient et sur les besoins du patient. Et c'est complètement un non-sens de plus financer ces choses-là qui fonctionnent, alors même qu'on entend dire très régulièrement sur tous les médias qu'il y a cette problématique des déserts médicaux qui fait aucun doute. Nous, la population de généralistes, elle a baissé de 10% à peu près dans les 10 dernières années, c'est considérable, alors que les besoins augmentent puisque les patients vivent plus longtemps, sont plus soignés, mais du coup ont des besoins de soins qui sont accrus. Et puis c'est dommage parce qu'on sait vraiment faire, c'est-à-dire que maintenant on a amélioré les soins techniques, on a amélioré au niveau humain, on sait faire, mais on a besoin d'espace, on a besoin de temps, on a besoin de collaboration, et ce travail en équipe, il est extraordinaire pour faire avancer ça. Donc c'est vraiment une médecine qu'on sait faire, et pour le coup qui améliore la question des pénuries de médecins plutôt que de l'aggraver. Alors ce serait trop dommage,
ouais,
de laisser péricliter un beau système comme ça.
Laisser la liberté aux gens qui sont sur le terrain de faire comme ils font et comme ils pensent être le mieux, c'est ça en fait qu'il faudrait.
Oui, c'est ça. Puis on a la preuve est faite que ça fonctionne. C'est, ouais, pas juste notre enthousiasme qui fait ses preuves. Hein. C'est réellement, il y a des chiffres, ça s'est beaucoup développé. Et d'ailleurs, on a été encouragé par la sécurité sociale à développer ce fonctionnement-là. Donc il y a une espèce d'injonction contradictoire qu'on comprend pas du tout. Parce qu'on a fait preuve d'efficacité dans l'accompagnement qu'on propose à nos patients.
Bon, on espère que votre message sera bel et bien entendu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous le délivrer. On peut se prendre un rendez-vous d'ici quelques mois pour voir si la situation évolue.
D'accord.
Merci
beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
La Méridienne.